Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission chaque jour, vous la connaissez, vous faire découvrir des hommes et des femmes de talent qui font briller les couleurs de la France. Aujourd'hui, gros plan sur un genre japonais que les Français ont investi, le manga. Il fait recette et vous allez voir que les tricolores s'en emparent. Schneider Electric revient en croissance, plus 6,6% l'année dernière. C'est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Enfin, améliorer la qualité des repas dans les services pédiatriques des hôpitaux, c'est le but des repas toqués et c'est la solution inventée par l'association Princesse Margot. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
3921, connaissez-vous les mangas, ce genre littéraire japonais? On vous attend, venez nous en parler au 3921 bien sûr, oui. Mais aussi sur Twitter.
Et oui, vous qui êtes une fan de manga, on lit d'ailleurs vos publications sur Twitter avec un petit message avec le hashtag Europe 1. 3921, c'est le standard d'Europe 1. Je dis juste que 50 centimes la minute, vous nous laissez un petit message et on vous rappelle bien sûr dans la foulée.
Évidemment Marlène, et aujourd'hui vous allez voir que ce sont les Français qui se saisissent de ce genre littéraire japonais. Il y a même aujourd'hui en France des chaînes hein, sur la TNT qui sont dédiées à cette littérature qui plaît aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes. Alors pour accueillir nos invités aujourd'hui à mes côtés, comme tous les jours, Elisabeth Assayagela, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Elle s'est plongée dans les mangas, vous allez voir. Et notre coach est là aujourd'hui, c'est Luc Le Sénécal, PDG de Saint-James et président de l'association nationale des entreprises du patrimoine vivant. Bonjour Luc.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Alors, est-ce que vous connaissez Thalie, la fille de la lune? Eh bien, c'est avec son créateur que nous allons faire connaissance. Bonjour Soria.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez inventé le personnage de Thalie. C'est le premier tome que vous publiez aux éditions Kama. Je crois que vous avez grandi au Laos et que c'est là-bas en fait que vous avez découvert l'univers, on peut parler d'univers du manga.
Oui, tout à fait. J'ai grandi au Laos, c'est là-bas que j'ai commencé à regarder des dessins animés d'abord et que j'ai lu mes premiers mangas qui m'ont inspiré ensuite pour faire mon travail aujourd'hui.
Ça veut dire que vous avez découvert des personnages de mangas à la télévision, sur le petit écran, et qu'ensuite vous êtes allé vous plonger dans les mangas, dans les mangas papier, les bandes dessinées.
Oui, enfin, j'étais déjà fan de BD quand j'étais petit et j'ai ensuite découvert les dessins animés japonais. Mais c'est tout... C'est un mélange de tout ça qui a fait que je suis fan de ce genre-là, on va dire.
Alors Elisabeth, on va peut-être commencer tout simplement, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui disent « mais moi je ne connais pas le manga, c'est quoi le manga ?»
Alors le mot manga, étymologiquement, je parle sous votre contrôle, hein, ça veut dire « image dérisoire ou dessin non abouti ». C'est une bande dessinée qui respecte les codes des productions populaires japonaises. Elles sont traduites en langue française. Les mangas se lisent généralement dans le sens d'origine, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Et la plupart des mangas sont en noir et blanc.
Et ça vient d'où précisément?
Alors le terme, il devient courant à partir de la fin du XVIIIe siècle. Ça devient le sens de bande dessinée, arrive pendant le XXe siècle. Donc c'est assez récent. Ça caractérise la bande dessinée japonaise. Et nous en France, il a fallu tout de même attendre les années 80 pour que ça se démocratise finalement.
Oui, Souria, vous êtes d'accord avec la définition que vient
d'accord.
De ça?
Je ne me suis pas trompée.
Bon, le dessin animé japonais, le vôtre, celui qui finalement vous a donné envie, c'est quoi? C'est Dragon Ball Z?
Je crois dire que c'est l'origine de ça, ce serait Dragon Ball Z, je pense. C'est peut-être le premier dessin animé que j'ai vu qui m'a vraiment frappé comme une série qui est addictive, je pense.
Et quel est le premier manga écrit que vous avez découvert?
Là, c'est vraiment une question qui est un peu floue pour moi.
Vous n'en souvenez pas?
Non, je ne m'en souviens pas. Je pense que celui qui m'a le plus marqué, sûrement Dragon Ball aussi, je pense.
Et c'est votre frère, en fait, hein, qui va vous ramener des mangas japonais de France.
Exactement.
Puis après, vous rentrez en France et vous commencez à réfléchir à vos études et vous vous dites, bah, j'ai envie de faire de l'art, de faire du dessin, de me tourner vers l'animation. C'est comme ça que vous tombez dedans, finalement?
Oui, j'ai toujours beaucoup dessiné quand j'étais petit, même durant mon adolescence. C'était une passion qui a toujours été là. Et après le bac, en fait, donc je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans. Et durant le lycée, en fait, j'ai fait un bac S. Je ne sais pas pourquoi. Et j'étais très, très frustré. J'ai toujours envie de dessiner. Et après le bac, je me suis dit, bon, ça suffit. Là, je fais ma passion parce que Il faut bien se lancer à un moment, je pense.
Et alors, vous commencez, vous collaborez à des projets. Je crois que vous avez travaillé sur Rouge, sur trois tomes de la série, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est une trilogie, donc c'est une série terminée. C'était ma première série, mon premier travail en tant que dessinateur. Et après, j'ai enchaîné quelques projets avant justement de faire Tali, qui est mon...
Votre
mon,
projet,
mon
celui qui
projet
vous tenait à cœur.
En tant qu'auteur, oui.
Vous l'avez en tête depuis 2012, Tali ?
Oui, j'ai eu les grandes lignes depuis 2012. Ça prend du temps à faire évoluer un projet.
Alors, justement, c'est quoi le manga français ? Il est différent du manga japonais dont on vient de parler ?
Peut-être en termes de production, elle est différente, mais je pense que la création, la base de la création est la même. Et l'envie de raconter des histoires, des auteurs est la même. Pour moi, le manga, c'est plus une plateforme, enfin un objet, une façon de raconter les histoires, une narration qui est propre au manga, on va dire.
Que dit notre coach, Luc ?
Oui, j'avais une question pour vous. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? C'est le dessin ou le scénario ? Parce que c'est un tout. Et...
Alors, pour moi, ça, au début, c'était plus le dessin. Donc, quand j'ai grandi, j'ai dessiné plus que j'écrivais. Et c'est seulement, on va dire, après, vers l'âge de 20 ans, 21 ans, où je me suis vraiment propulsé plus vers le scénario et l'écriture. Et même, je pense qu'aujourd'hui, je prends plus de plaisir à écrire. J'essine de moins en moins. Et c'est même difficile pour moi de prendre mon carnet de croquis, de dessiner comme ça, sans réfléchir. Parce que dans ma tête, tout d'un coup, je pense « Ah, mais si je fais ce personnage, ça veut dire qu'il faut que je fasse sa personnalité. C'est quoi son histoire derrière ?» Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me travaille plus que le dessin.
Bah, écrivez des livres, alors.
Les influences sont différentes, non ? Les influences sont différentes quand on est en France et qu'on fabrique un manga que quand on est au Japon et qu'on pense à un manga.
Je pense que ce sera plus une question pour Benoît, mais
il vous écoute, hein, Benoît Huot, des éditions Glénat qui va nous rejoindre dans un instant.
De ce que j'en sais, c'est que les mangaka, donc les auteurs de manga au Japon, sont prépubliés dans un magazine, que ce soit donc hebdomadaire ou mensuel, donc le système de production est beaucoup plus rapide qu'en France. Donc oui, il y a une grande différence à ce niveau-là.
Il y a une autre différence, en tout cas dans le vôtre. Alors, je n'ai pas avec moi, mais il va arriver, on va aller le chercher, Tali. On le lit dans l'autre sens, pas dans le sens traditionnel. C'est un choix que vous avez fait ?
C'est un choix, oui. C'est un choix
Pourquoi ? Pour
narratif.
Que ça soit plus facile oui. D'accès pour plus de monde ?
Ça, c'est vraiment personnel. C'est un choix technique et narratif. Pour moi, c'est les mangas publiés en France, d'auteurs français qui font... une lecture donc, de droite à gauche, dans le sens japonais, c'est qu'ils ont l'objectif peut-être d'être édité au Japon. Parce que pour moi, il n'y a pas d'autre raison, à moins que ce soit par purisme, on va dire. Mais,
peut-être pour garder la tradition.
Mon deuxième point, qui est technique, en fait, c'est que l'écriture, la lecture française donc, d'une phrase, se lit de gauche à droite, donc finit à droite, et dans le storyboard, donc dans la mise en scène des cases et le placement des cases, je trouve ça le plus naturel. Donc on finit une bulle sur la droite et donc on enchaîne sur la case qui est à droite.
Mais du coup, vous diriez qu'il y a beaucoup de différences aujourd'hui entre votre manga français et une bande dessinée classique ?
Oui, bien sûr. Le format déjà et le que ce soit en noir et blanc et le nombre de pages aussi. Donc c'est assez différent d'une BD.
160 pages, 162 pages même, très
oui,
exactement.
D'ailleurs, c'est peut-être moins... Il y a moins de pages qu'un manga traditionnel, je pense, qui tourne plus autour de 180 et 200 pages. Mais pour le tome 2, là, j'ai fait plus de pages.
Ça y est, vous êtes en train de le préparer, le tome 2.
Le tome 2 est en cours et il sortira cet été.
Ça prend beaucoup de temps ?
Pour moi, oui. Je suis assez lent, surtout sur l'écriture, oui. Pour moi, je dis parce que je sais qu'il y a des auteurs qui sont
très, très prolifiques.
Oui, beaucoup plus productifs, oui.
Et vous avez prévu un tome 3 déjà, je crois ?
Tome 3, oui, j'ai... Les grandes
Il est dans
de
la
mon
tête.
Scénario.
Ouais.
Oui, j'ai commencé à écrire le scénario, mais j'ai pas pu avancer sur les dessins, on va dire.
Si ses pouvoirs sont les mêmes que ceux de sa mère, elle ne doit pas rester en liberté. Nous risquons une nouvelle guerre des chimères. Voilà ce qui est écrit sur ce premier tome pour Tali, fille de la lune.
Oui. Donc c'est l'histoire, oui, de cette jeune fille, Tali, qui a 15-16 ans. C'est une histoire qui se passe dans un univers médiéval fantasy. Et donc, dans cet univers-là, les invocatrices sont pourchassées et tuées par les rois et les seigneurs depuis des centaines d'années parce que ils estiment que leur pouvoir est beaucoup trop puissant. Et donc Tali a eu beaucoup de chance, en fait, quand elle était petite, elle a été adoptée et par un seigneur qui l'a protégée de tout ça. Donc elle a grandi pendant des années dans le château, sans soucier de ce problème.
Et on ne va pas raconter la fin, surtout, on va laisser les gens la découvrir. On reste ensemble, on continue à découvrir, nous, sur Europe 1, l'univers du manga à la française.
Il est 13h10.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Les mangakas ont les idées, il faut ensuite les éditer. C'est ce que fait Glénat depuis 30 ans maintenant. A tout de suite sur Europe 1.
Lundi dernier, Acadomia a remis le trophée de l'éducation dans le cadre des trophées de l'avenir Europe 1. Et tous les jours, Acadomia apporte des solutions concrètes à nos enfants pour leur permettre de bien préparer leur avenir. À l'occasion du salon Paris Manga qui se déroulera ce week-end, Porte de Versailles, 27e édition, on parle des mangas et des mangas à la française en particulier aujourd'hui dans La France Bouge avec vous, Raphaël Duchemin et vos invités. Et nos auditeurs qui nous écoutent peuvent bien sûr intervenir. Est-ce qu'ils préfèrent les mangas français aux mangas japonais par exemple? 3921, c'est le standard Europe 1 ou encore
Twitter, le hashtag Europe 1.
Avec le hashtag Europe 1. Dites-nous si c'est une passion, tiens.
Alors, quand vous poussez la porte d'une librairie et que vous demandez le rayon manga, il y a de fortes chances pour que le livre acheté soit édité par Glénat. Bonjour Benoît.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable éditorial manga chez Glénat. Glénat qui édite du manga depuis 30 ans, parce que c'est le président de Glénat qui l'a ramené dans ses valises lui-même en 88, je crois, après tout simplement l'avoir découvert au Japon.
Exactement. Au départ, il était parti au Japon pour proposer ses titres, ses bandes dessinées aux éditeurs. Et en arrivant là-bas, il a découvert bien évidemment le foisonnement de cette littérature et s'est intéressé justement à la pertinence de ses ouvrages. Il a donc opté pour un titre qui pouvait être découvert par le lectorat français qui ne le connaissait pas.
Akira, c'est ça?
Akira, exactement.
Qui sort en France, du coup, en version française en 1991. Alors, dans l'autre sens, là, dans le sens traditionnel.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il a d'abord acquis les droits. Donc, en 88, il découvre Akira. En 89, il parvient enfin à négocier les droits, ce qui veut dire qu'il lui a quand même fallu un an pour négocier avec l'éditeur japonais une autorisation de publication, parce qu'à la base, les éditeurs japonais publient pour leur marché et absolument pas pour le secteur étranger. Et ensuite, une fois que le contrat a été signé, il a encore fallu 2 ans, parce que c'était la première fois qu'on publiait du manga et qu'il fallait pouvoir le proposer de la bonne manière.
Et ça marche tout de suite auprès du public?
Alors ça marche, oui. C'est-à-dire que ça marche comme un nouveau type de littérature qui s'implante. C'est-à-dire qu'on n'a pas une explosion faramineuse au niveau des ventes, mais le lectorat auquel s'adresse cette série est présent. Faut savoir que la toute première édition d'Akira telle qu'elle était présentée est en version couleur, en format cartonné, donc une version qui est assez proche des bandes dessinées de l'époque. Mais cela constitue déjà une révolution par rapport à ce qui était déjà implanté.
Vous avez dû justement vous adapter au fur et à mesure oui. Par rapport à ce qu'on peut voir hein, quand on va au Japon par exemple. La plupart des gens qui sont friands de mangas lisent, y compris dans le métro à Tokyo, des mangas. Est-ce que nous on est sur les mêmes formes, les mêmes formats?
Alors on est sur les mêmes formes et les mêmes formats parce qu'en fait au fur et à mesure de la démocratisation du manga en France, le lectorat a voulu quelque chose de plus proche, au plus proche de la version japonaise. Et donc il a découvert qu'il s'agissait plutôt de mangas au format poche, noir et blanc, sans lecture japonais, avec jaquette, et donc à demander ce genre d'ouvrage.
On parlait tout à l'heure avec Souria du début, du coup de cœur pour le manga. Vous, c'est pareil, c'est Dragon Ball Z aussi, et c'est aussi la télévision.
C'est pareil, en fait, j'ai grandi donc effectivement avec les dessins animés, et le premier manga que j'ai découvert était Dragon Ball, donc en sens de lecture français à l'époque, oui. Puisque ça commençait, donc on n'allait pas tout de suite braquer le lectorat avec un sens de lecture japonais. Et donc j'ai commencé par Dragon Ball, et puis ensuite je me suis intéressé aux autres titres, et puis j'y suis toujours.
Dites-moi Elisabeth, il se porte bien le marché du manga?
Très bien, il ne cesse de rebondir depuis 3 ans. Je vais vous donner quelques chiffres. En 2017, les ventes en France ont atteint la barre des 15 millions d'exemplaires, c'est-à-dire une progression de plus de 9%. Et 15 millions, c'est important parce que c'est un niveau qui correspond au record historique du marché français des mangas qui avait eu lieu déjà en 2008.
Et c'est cher un manga?
Alors, c'est cher, ça dépend. Les mangas qui sont vendus au Japon sont moins chers que ceux qui sont vendus en Europe. Environ 500 yens au Japon, ce qui correspond à 4 euros environ. Alors qu'en France, le prix d'un manga se situe généralement entre 6 et 15 euros selon les formats et selon les éditions. Il faut savoir que les mangas au Japon, ils sont considérés comme des objets, on peut le dire, comme des produits de grande consommation et pas forcément comme des objets de valeur. Hein. C'est des produits de la vie courante.
Que dit presque. Notre... Oui, oui, vous avez raison, ce sont des produits de la vie courante. Luc Le Sénécal, notre coach, que dit-il ?
Oui, j'avais une question pour Benoît. Est-ce que vous travaillez de plus en plus avec des auteurs français ou
Oui, on travaille de plus en plus avec des auteurs français. C'est-à-dire que donc le manga est arrivé en France il y a une trentaine d'années et les auteurs de manga de création ont eu le temps justement d'affiner leur style, de développer leurs compétences, ce qui fait que maintenant nous avons des auteurs de manga de création qui peuvent, on va dire, faire jeu égal avec des auteurs japonais. Et donc, à partir du moment où on nous propose des histoires qui nous intéressent avec un traitement qui est un traitement qualitatif équivalent à ce qui se produit au Japon, à ce qui se publie au Japon, on aurait tort de leur fermer la porte, puisque ce qui est important, ce que cherche le lecteur lorsqu'il achète un ouvrage, c'est d'avoir une bonne histoire. Tout simplement.
Dites-moi, vous avez 2300 références, c'est ça, oui, chez Glénat en manga. Vous avez 150 titres vendus par an. Ça représente quoi, justement, le manga français sur ces 150 titres ?
Le manga français
sur... On en a quelques-uns avec nous, hein, voilà, sur Europe 1.
Le manga de création sur ces 150 titres représente une portion assez réduite pour le moment, puisqu'on a, à peu près, on va dire, une dizaine de tomes à l'année sur les 150. Donc, voilà. Parce que nous avons aussi un processus de production qui est différent. C'est-à-dire qu'au Japon, les mangakas travaillent très souvent en studio avec des assistants. Il ne faut pas oublier que pour des shonen, des mangas comme Dragon Ball ou One Piece, ils doivent rendre 20 planches par semaine. Donc,
voilà. Alors, vous venez de dire le mot, vous dites shonen, il y a aussi les shoujo et les seinen.
Oui.
Il y a des genres aussi dans le manga.
Oui. Oui, il y a différents genres. Le shonen, dans un premier temps, s'adresse, on va dire, au lectorat adolescent garçon, donc des histoires d'aventure, d'action, d'amitié. Alors, j'y s'adresse au lectorat.
Ça, par exemple, c'est un shonen.
C'est ça. Devil's Relics, c'est effectivement un shonen. Donc, avec des histoires d'aventure et d'amitié.
Celui-ci aussi, Orion.
Exactement. Orion aussi est un shonen. Il y a aussi donc, du shoujo. Donc, pour le moment, nous n'éditons pas de manga de création shoujo. Mm-hmm. Et il y a bien évidemment, en parallèle, du manga de création seinen, donc c'est-à-dire à destination des adultes, comme justement le voleur des estampes,
qui est connu, hein, qui est, oui, on peut dire un classique du genre.
Oui, c'est un classique du genre puisque l'auteur a voulu véritablement faire un manga mais en reprenant la technique de travail des estampes au point qu'il a même travaillé avec des réalisateurs suite à la publication de cette œuvre.
Alors j'ai une question pour Surya. Tali, la fille de la lune, c'est quel genre ? Shonen, shoujo, seinen ?
C'est plus axé shonen, je dirais.
Shonen
d'aventure,
aussi, oui.
Donc, mais ça s'adresse aux filles aussi, c'est ça ?
On reste ensemble, on continue à découvrir l'univers français du manga aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et vous allez voir que le genre marche très fort et pour apprendre les bases, évidemment, il fallait une école. Il y en a deux en France, dont l'École internationale de manga et d'animation du côté de Toulouse. A tout de suite.
Le marché du manga se porte bien, nous rappelait tout à l'heure Elisabeth Assayag. Le manga, il en est question jusqu'à 14h sur Europe 1 dans La France Bouge. Et on en parle avec vous, Raphaël Duchemin et vos invités. Hashtag Europe 1 sur Twitter. Dites-nous si vous préférez le manga à la BD. Quel genre de manga vous aimez? Quel est le premier manga que vous avez découvert?
Oui.
On a Soldat Guerrier là qui nous dit qu'il adore les mangas. Après, il comprend que certains n'aiment pas. Il n'explique pas pourquoi.
Oui, faut qu'il nous explique. On l'attend. Qu'il faut qu'il nous dise. Hein. On attend la suite hashtag Europe 1. Le manga, c'est vrai que c'est à part. Et même la technique, ça s'apprend. Pour pouvoir connaître tous les codes, il y a des formations comme celle proposée justement à Toulouse. Bonjour Claire Pellier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui la dirigez, c'est vous qui en avez eu l'idée. Vous êtes vous aussi tombée en amour, hein, j'ai envie de dire, avec le manga grâce, toujours le même, le fameux Dragon Ball.
Alors entre autres, effectivement, moi, c'est pareil, hein, comme Surya, comme Benoît, ça a commencé à la télévision.
Les Chevaliers du Zodiac.
Les Chevaliers du Zodiac, le Roi Léo, puisqu'à l'époque, on avait encore ce dessin animé de Tezuka, qui est un des grands chefs-d'œuvre aussi qui était diffusé. Donc oui. Plein de choses.
Vous
comme
aviez
ça.
Quoi, 7-8 ans à l'époque ?
À peu près, oui, c'est ça, Génération Club Dorothée. Donc je dirais effectivement entre 6, 7, je crois que j'ai connu un petit peu Récré à deux même, il me semble.
Oui, ça me rappelle des souvenirs Récré à deux. Du coup, vous avez décidé d'en lire parce que là, on était à la télévision, vous passez à l'étape suivante.
Alors ça a mis plus de temps puisqu'en fait, moi j'ai découvert le manga quand il est arrivé vraiment très très fort en France dans les années 2004 avec Naruto, qui est la première série que j'ai lue en papier. Mm-hmm. Je lisais énormément de bandes dessinées en fait jusque-là, j'étais une grande fan de franco-belge. Et j'avais grandi avec justement l'animation japonaise et ça a été extrêmement simple de faire ce passage en fait du franco-belge vers le manga et ça a été une passion immédiate.
Et alors après vos études, vous êtes assez logiquement, j'ai envie de dire, hein, professeur d'art plastique et vous décidez de proposer des cours de manga en loisir.
Tout à fait. En fait, j'avais déjà mis en place ateliers dans les collèges et les lycées où j'enseignais. Je voyais qu'il y avait un phénomène, enfin vraiment que les ados adoraient et c'est quelque chose qui n'existait pas et j'avais vraiment cette envie de partager avec eux. Donc j'ai monté la première école qui a été Toulouse Manga, donc qui était une structure de loisirs et j'ai accueilli 50 élèves dès la première année.
Alors du coup, vous poussez vraiment, vous allez jusqu'au bout, vous dites je pars au Japon, je vais me former à la japonaise parce que c'est important d'apprendre finalement les rudiments. Alors, c'est quoi les rudiments pour pouvoir enseigner le manga?
Alors, de mon point de vue, je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre ensuite, c'était vraiment la narration et le découpage. C'est-à-dire que les Japonais ont une manière de narrer qui est extrêmement cinématographique, qui s'appuie beaucoup sur les codes du cinéma. Et c'était quelque chose qu'il me fallait apprendre, en fait, pour changer un petit peu de mon point de vue occidental et réussir à me mettre à la place de ce point de vue japonais pour pouvoir l'enseigner correctement.
Et il n'y avait pas du tout d'offres en France?
En France, pas du tout. Enfin, trouver des mangaka japonais et même trouver une formation assez sérieuse à ce niveau-là, c'était très compliqué.
Ouais, vous avez mis du temps d'ailleurs hein, à trouver les bons partenaires. Vous avez mis 3 ans, je crois?
Il m'a fallu 3 ans pour réunir non seulement les partenaires et les compétences, puisqu'on a une professeure japonaise qui est venue s'installer en France directement pour enseigner à l'école. On a fait des partenariats avec des mangaka japonais, avec des écoles. Donc effectivement, ça a pris du temps pour faire les choses bien.
Luc, une question du coach?
Oui, une question au professeur. Moi, je suis un peu perdu.
Vous avez vu, il a levé le doigt, d'ailleurs.
Certains de nos auditeurs dans le vocabulaire. Parce que vous utilisez le terme mangaka, il y a le terme manfra. Quelle est la différence?
Alors, mangaka, en fait, c'est l'auteur de manga. Les Japonais ne font pas la distinction entre le scénariste et le dessinateur. Donc, soit il peut faire les deux, soit il peut faire l'un ou l'autre. Manfra, c'est un terme qui n'est pas encore tout à fait adopté dans le vocabulaire à l'heure actuelle pour désigner le manga de production française. Donc, on reprend la base de manga qui est
manfra
et fra français. Pour français, puisqu'on a aussi le manhwa et le manhwa. Désolé pour mon accent coréen et chinois qui est catastrophique, mais qui est du manga qui vient de ces pays-là.
Alors, je voudrais qu'on s'intéresse aussi, Elisabeth, avec vous, à la différence dont on a un peu parlé, hein, puisque vous parliez des bandes dessinées, justement entre la BD et le manga.
Mais là, on vient de l'entendre un petit peu, la différence, finalement, elle est un peu technique. Elle est technique. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, c'est que le manga, il est très souvent en noir et blanc. On l'a vu, il se lit de la droite vers la gauche, sauf avec Tali. Le rythme de parution est très rapide. Donc ça, c'est important, c'est au niveau de la fréquence de l'apparition. Un livre souvent épais qui se décline en série de plusieurs tomes avec des codes graphiques très spécifiques. Hein. Donc c'est ça, c'est la technique. La bande dessinée, elle, ben on le sait, en France, on la surnomme le 9e art. La bande dessinée était au début majoritairement publiée dans des revues hebdomadaires. C'est tout à fait autre chose.
Oui, sauf qu'au Japon, il y a aussi ces fameux albums hein, qu'on lit un peu comme chez nous, finalement, avant la guerre.
Oui, tout à fait. Mais en fait, vous parlez d'une chose qui est extrêmement importante, c'est la manière dont c'est produit.
C'est ça, c'est-à-dire une technique particulière.
Voilà, il y a aussi la régularité et la fréquence. C'est-à-dire qu'à créer un chapitre toutes les semaines et à devoir accrocher des lecteurs toutes les semaines, les mangakas se retrouvent dans une technique où ils sont obligés de mettre des climax, c'est-à-dire des moments d'intensité du récit très importantes régulièrement. Et c'est une des caractéristiques du manga, c'est-à-dire vraiment de happer son lecteur et de ne plus le lâcher.
Ça, c'est une série.
Oui, c'est exactement. C'est comme une série. Il y a le papier aussi, il y a les encres, il y a tout ce qui permet de faire un manga. Ça, vous allez le chercher au Japon.
Nous, on l'importe directement du Japon, effectivement, puisque c'est du matériel qui est extrêmement spécifique, qui ne se trouve que là-bas à l'heure actuelle, et qui permet d'avoir des rendus qui sont d'une technicité assez particulière. Oui.
C'est-à-dire
Alors, notamment dans le processus de fabrication, par exemple, on importe ce qu'on appelle des trames qui sont en fait des surfaces de papier autocollantes transparentes avec des effets qui sont déjà prédessinés dessus, qu'on vient gratter, qu'on vient poser, qu'on vient découper pour faire toutes les nuances de gris et tous les effets de lumière dans les mangas. Pour éviter d'avoir à faire tous les petits points à la main, par exemple, ce qui prend beaucoup de temps. On a aussi des plumes. Alors la fameuse G-Pen, c'est-à-dire la plume du mangaka, la Maru, la Saji, qui sont des plumes en fait, qui ont chacune leur utilité et qui permettent vraiment d'avoir un trait, ce trait extrêmement fin, extrêmement précis, extrêmement dynamique du manga.
On reste ensemble, on continue à tourner les pages de l'univers du manga aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27. Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend, 39-21, avec vos questions à poser à nos invités. C'est la France qui bouge. À tout de suite. Europe 1.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France Bouge sur Europe 1. On parle des mangas aujourd'hui avec vous, Raphaël Duchemin, et vos invités. Sur Twitter, vous pouvez bien sûr nous laisser un commentaire avec le hashtag Europe 1, comme a pu le faire Alexandre, qui nous dit « Les mangas, un univers sublime. J'ai commencé à en lire plusieurs à mes 17 ans avec un manga nommé Skaters, qui racontait l'histoire d'un jeune homme souhaitant se faire un nom dans le monde du skateboard. Il a adoré le lire. Malheureusement, la suite n'est jamais apparue. Ah. En ce moment, il lit Beyond the Cloud, vous connaissez peut-être, qui est magnifique et qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui souhaite protéger une petite fille ailée. »
Oui, on va voir qu'il y en a beaucoup hein, des mangas avec nos invités. Souria, qui a écrit Tali, fille de la lune, est avec nous aujourd'hui aux éditions Ankama. Benoît Huot, responsable éditorial manga chez les éditions, aux éditions Glénat. Et Claire Pellier, directrice de l'école internationale du manga et de l'animation à Toulouse. Avec nous aussi, Elisabeth Assayag, qui m'accompagne chaque jour dans cette émission. Et notre coach aujourd'hui, Luc Le Sénécal. Est-ce que vous avez d'autres questions, Luc? Parce que je sais que vous avez bien travailler sur ce manga. Vous êtes plongé dans l'univers.
J'ai fait mes devoirs.
Ouais, je vois, c'est pour ça.
Surligné, en orange. Ouais.
En fait, j'avais une question pour Claire. Quel est le profil des professeurs de votre école?
Alors en fait, chacun de nos professeurs est un professionnel du domaine qu'il enseigne. C'est-à-dire que par exemple, notre professeur de manga est une mangaka qui est venue directement du Japon, qui continue tous les mois à publier au Japon, notamment. Donc elle a un emploi du temps extrêmement chargé. Par exemple, notre professeur de coloriste a travaillé sur la couleur des vieux fourneaux, sur beaucoup d'albums, il en a une quarantaine à son actif. Notre professeur de dessin a notamment travaillé sur du concept art pour les studios Blizzard, du character design aussi. Donc ce ne sont que des gens qui sont spécialisés dans le domaine pour vraiment transmettre toutes les compétences nécessaires à nos élèves.
Et aujourd'hui, on forme combien de mangaka justement dans les écoles françaises?
Alors nous, on est une toute petite école. Hein. On a 54 élèves au total sur toute l'école, pour l'école professionnelle, pour l'école de loisirs.
En combien d'années?
Alors à l'heure actuelle, on a une formation en 3 à 4 ans et en fait, on va changer notre cursus pour passer en 2 à 5 ans puisqu'on vise un jour la création d'une reconnaissance du diplôme qu'on veut créer. Voilà, donc on est en train de transformer tout ça. Mais 54 élèves, c'est très peu, mais ça permet aussi d'avoir une formation de très bonne qualité.
Souria, vous avez mis combien de temps à vous former à l'art du mangaka? On peut parler d'art, hein?
Oui, bien sûr. Alors moi, je n'ai pas fait une école de BD ou de manga, j'étais en école de cinéma d'animation. Mais les envies sont les mêmes, donc c'est de raconter une histoire, bien sûr, la mise en scène, le storyboard, avoir un dessin dynamique, vivant. Après, pour ce qui est de la BD en elle-même, je pense que j'en ai toujours fait quand j'étais jeune, donc c'est quelque chose que j'ai travaillé, peut-être
oui,
moi de mon côté,
vous.
On va dire, oui. Enfin, peut-être pas en moi, mais en tout cas, je l'ai...
Que vous avez entretenu.
Voilà, c'est ça, que j'ai entretenu,
développé.
Je pense. Oui.
Elisabeth ?
Oui, concernant le contenu des mangas, concernant l'histoire, j'ai l'image, mais peut-être à tort, que c'est souvent l'aventure, c'est souvent violent. Il y a des histoires d'amour chez les mangas?
Alors, personnellement, j'aime beaucoup le shoujo, justement, voilà. Les mangas qui sont davantage destinés à un public féminin.
Le romantisme a-t-il sa place?
Oui, le romantisme a tout à fait sa place, mais je dirais qu'au Japon, même le romantisme a une place particulière. Ouais.
Mais les personnages, je pense par exemple à des choses comme Olivier Tom.
Vous avez une histoire d'amour dans Olivier Tom.
C'est pour ça, voilà, ça s'adresse à plusieurs publics.
En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le manga au Japon...
Je précise, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est dans l'univers du football.
Oui, exactement. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que le manga au Japon est une matrice et qu'on l'utilise pour aborder énormément de thèmes. On ne peut pas considérer que le manga n'aborde que certains sujets et pas d'autres. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure justement des différents genres. Et à partir du moment où on a différents genres de lecture, on a également différentes thématiques. Et donc on peut avoir tout à la fois des histoires d'amour, ce qui est assez souvent le cas notamment dans les shoujo, mais on peut également avoir des histoires d'amour à destination des adultes. C'est-à-dire avec moins, on va dire, de « mon cœur tremble, que m'arrive-t-il, je ne sais pas ce qui se passe
»,
mais beaucoup plus
aussi.
Des relations sur « je suis une femme divorcée, comment est-ce que je vais m'organiser », etc. Donc il faut vraiment avoir à l'esprit que le manga aborde une multitude de sujets et qu'à partir du moment où vous cherchez quelque chose, vous avez 99% de chances de pouvoir trouver un titre qui l'aborde.
Oui, donc c'est comme un roman, finalement, on a toutes les possibilités et tous les âges, finalement,
Qui trouvent leur expression. C'est simplement qu'effectivement, il faut d'abord avoir à l'esprit, on va dire, l'âge du lectorat, puisqu'on ne traitera pas forcément du même sujet.
Luc, une question?
Oui, alors c'est une question un peu collective. Est-ce que vous pensez que le manga français pourra cartonner au Japon et à l'international? avec tout ce que vous mettez en place.
On y travaille.
Voilà, on y travaille. Alors, ce qu'il faut bien savoir déjà, c'est qu'au Japon, les éditeurs japonais ont suffisamment d'auteurs sous la main pour proposer de merveilleuses histoires, pour ne pas les chercher ailleurs. Donc, si on veut pouvoir effectivement toucher le Japon, il faut être en mesure de leur prouver que les titres qui sont publiés dans du manga de création sont des titres qui ont une qualité équivalente, voire supérieure à ce que eux font.
Et on va peut-être aller aborder des thèmes de manière différente, c'est aussi ça qui peut être intéressant.
En fait, si je peux me permettre de rebondir, nous on forme des mangaka. Alors le but c'est vraiment qu'ils travaillent en France, pour nous, pour le coup, justement pour répondre à des préoccupations qui sont davantage les nôtres, qui sont des sujets de société, qui sont des projets qui sont ancrés vraiment dans notre culture. Donc je ne sais pas si on fera ce chemin, effectivement, comme l'a fait, il y a notamment Tony Valente hein, qui vient de faire ce chemin-là, qui a carrément un animé maintenant au Japon. Le but, effectivement, de tous nos élèves, c'est de suivre ce chemin-là. Mais déjà, nous, ce qu'on veut, c'est proposer un très, très bon manga de qualité en France à un public européen.
Vous êtes d'accord, Soria ?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est le principal. C'est d'abord de faire une bonne histoire, de bien la raconter, d'avoir une bonne émotion derrière. Et après, je pense que le succès viendra tout seul, je pense.
Et on précise, Elisabeth, aussi qu'il existe des chaînes de télé françaises hein, de manga. Ça aussi, c'est important pour la démocratisation du genre.
Oui, vous avez Manga, qui est une chaîne de télévision française consacrée donc au manga. Elle existe depuis 1998 tout de même. Et G1, qui a 5 ans, il y a eu plus de 5 millions d'euros déboursés pour lancer cette chaîne parce que la France, c'est le deuxième plus gros pays consommateur de manga.
Oui, et G1, ça signifie qu'effectivement, le manga sort un jour simplement après la diffusion au Japon. Hein, c'est important de le préciser. Merci à tous les trois d'être venus nous parler manga à la française aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h36. Europe 1. Plein feu sur une entreprise qui va bien à 13h40. On vous retrouve, Raphaël Duchemin, pour la suite de La France Bouge.
Et cette entreprise, c'est Schneider Electric. Bonjour Christelle Edeman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de Schneider Electric France. L'histoire, elle commence il y a très longtemps, hein, 180 ans, avec deux frères, Eugène et Alphonse Schneider. On est à l'époque au Creusot, on est en 1836 très précisément. Et alors, ils vont racheter une entreprise, à l'époque entreprise de sidérurgie, qui tourne au ralenti et ils vont en faire un géant, celui qu'on connaît aujourd'hui.
Exactement. Et donc, à l'époque, nous étions une start-up qui a bien changé et nous ne sommes plus une start-up. Mais c'est vrai qu'on est finalement une des seules entreprises françaises qui a réussi à innover dans chacune des révolutions industrielles françaises. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la quatrième révolution industrielle. Mais à l'époque, la machine à vapeur, la sidérurgie, on était au 19e siècle. Et les frères Schneider au Creusot ont créé finalement cette entreprise qui a ensuite beaucoup évolué.
Oui, après, il y a l'arrivée de la fée électricité qui va vraiment transformer les choses.
La fée électricité et au début du 20e siècle, la création finalement des premiers disjoncteurs, Merlin et Gérin, qui a ensuite créé l'entreprise Merlin-Gérin qui a beaucoup équipé les maisons en France. Beaucoup de tableaux électriques qui ont été évidemment Merlin-Gérin à Grenoble.
Et tout ça, c'est aujourd'hui
Schneider Electric.
Il y a une centaine de marques, c'est ça ?
Alors, il y a beaucoup de marques. La marque Schneider Electric est très connue sous d'autres marques. En Australie, on parlerait de Clipsol, où on est leader du marché. Mais en France, on est essentiellement sous la marque Schneider Electric. Mais on a aussi d'autres marques. Aveva, par exemple, dans le monde du logiciel industriel, ou Wonderware. Donc, il y a beaucoup de marques. Et les clients de Schneider Electric nous connaissent en général sans nous connaître.
Mais alors, dites-moi, comment on fait à l'époque pour passer du maître des forges au leader de la gestion électrique, parce que il y a quand même un grand écart.
Alors il y a un grand écart et c'est et finalement l'entreprise a eu beaucoup de passages où elle a failli disparaître et donc à chaque fois c'est des rebonds, c'est des patrons d'entreprise qui ont fait des paris, qui ont été quelque part visionnaires. Alors on peut dire il y a une part de chance, il y a toujours une part de chance.
Il y a des patrons emblématiques, on pense évidemment au Baron Empain.
Au Baron Empain, Didier Pinault Valenciennes
dans les années 80
et puis Henri Lachmann au début des années 2000 et Jean-Pascal Tricoire depuis maintenant 15 ans à la tête de l'entreprise. Et qui a amené l'entreprise où elle est aujourd'hui. Avec, il faut se remettre en perspective, quand à la fin des années 90, Didier Pinault Valenciennes décide de faire en sorte que l'entreprise s'appelle Schneider Electric. Aujourd'hui, on sait que l'électricité vient partout. par l'Internet, l'informatique et les véhicules, le transport. Mais à l'époque, c'était quand même un pari. Et aujourd'hui, on est au cœur de la transformation numérique dans les différents marchés, que ce soit dans le bâtiment, dans les centres de données, dans les hôpitaux, dans les usines. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est nouveau. Et c'est cette quatrième révolution industrielle.
Quatrième révolution, la révolution digitale, hein, finalement, avec cette usine 4.0 qui est la vôtre. Alors, on n'est plus au Creusot, on est à Vaudreuil, hein, c'est ça ?
On est au Vaudreuil, en Normandie.
Et là, ça intègre toutes les technologies.
Et alors, cette usine du Vaudreuil en Normandie, c'est une belle histoire, parce que c'est une usine qui a 40 ans, qui exporte depuis la France. On a pas mal d'usines encore en France, et donc ça fait partie du savoir-faire. Les équipes sont très fières. Et cette usine qui a 40 ans, on leur a dit, on va investir dans votre usine pour en faire une vitrine, finalement, des technologies que l'on propose tous les jours à nos clients, et pour faire en sorte qu'on vive de l'intérieur finalement ce que toutes les entreprises vivent aujourd'hui, c'est l'adoption de ces nouvelles technologies. Les enjeux ont évidemment été la technologie, mais surtout les nouveaux métiers qu'on a dû créer, et les opérateurs aujourd'hui sont très très fiers. On a des milliers de visiteurs qui sont venus depuis, donc nos clients maintenant viennent. Cette usine a été reconnue à Davos en mois de janvier comme étant l'une des 10 usines les plus avancées, comme une vitrine technologique de l'industrie du futur. Et évidemment tout ça, c'est en Normandie, à côté d'ici, avec 350 salariés dans l'usine qui en sont très fiers.
Luc Le Sénécal, notre coach.
Oui, au fait, vous avez, je crois, près de 142 000 employés.
Oui.
Quelles sont les valeurs qui font la fierté de l'entreprise ?
Alors, les valeurs de la fierté de l'entreprise, on a vraiment, d'abord, on a une mission qui est très, très forte. Et chez Schneider Electric, la mission de l'entreprise, c'est on considère que l'accès à l'énergie, c'est un droit de l'homme. Alors évidemment, en France, on a tendance à l'oublier parce que ça fait très longtemps que tout le monde a accès à l'énergie, mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde où ce n'est pas le cas. Et on considère aussi que la façon dont on consomme l'énergie aujourd'hui n'est pas durable. Et donc, on travaille tous les jours sur l'efficacité énergétique. Et c'est des sujets d'actualité parce qu'on parle beaucoup de transition écologique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les bâtiments qui représentent 40% de la consommation d'énergie en France sont massivement inefficaces. Et on estime qu'on peut diviser quasiment par deux la facture d'énergie de tous les bâtiments. Si vous faites le calcul, 40% de la facture énergétique en France, les bâtiments qu'on pourrait diviser par deux, on parle de sommes colossales, et c'est ça la transition écologique. Et au quotidien, les salariés de Schneider Electric sont très fiers, par nos technologies, par nos savoir-faire, d'accompagner les clients, d'accompagner nos partenaires que sont les électriciens, les industriels, pour la mise en œuvre de cette transition écologique.
Il y a aujourd'hui une actualité judiciaire aussi, hein, qui concerne Schneider Electric, puisque vous faites partie des sociétés qui ont n'ont pas eu de relax général, mais quelques peines symboliques dans l'affaire qu'on a appelée Pétrole contre nourriture 2. Renault Trucks, Legrand, Schneider Electric, condamné donc en appel. Comment est-ce que vous allez gérer justement cette condamnation, parce que ça veut dire inscription au casier judiciaire et ça veut dire peut-être des problèmes justement pour les marchés publics en France?
Alors, de toute façon, nous, on respecte les règles dans tous les pays dans lesquels on opère. Et donc, on apprend à chaque fois qu'il y a des décisions comme ça. On est droit dans nos bottes. Et de toute façon, on estime que toutes les entreprises ne sont pas à l'abri de faire des erreurs. On apprend à chaque fois qu'on a fait des erreurs. On corrige le tir. Ça ne nous empêche pas de répondre à des appels d'offres, bien évidemment, et encore moins des appels d'offres publics. Et donc, ça fait partie de la vie des entreprises. Mais à chaque fois qu'on a des difficultés dans une entreprise, on en tire profit et ça nous permet de grandir et de rebondir dessus, et certainement pas de regarder le passé, mais toujours regarder l'avenir et d'être optimiste.
Grandir, c'est important parce que ça va bien, hein, chez Schneider Electric. Vous avez cru l'année dernière de 6,6%. L'année 2017 avait été importante parce que c'était le retour justement à la croissance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Schneider est sur la bonne lancée ?
On est sur ces marchés qui sont porteurs de l'électrification du monde, de la transformation numérique des industries, des bâtiments. Et donc, c'est ça qui génère de la croissance pour Schneider Electric. Et ça fait maintenant plus de 15 ans que le groupe s'est très diversifié dans beaucoup de métiers. On est au cœur de la... Au quotidien, on utilise l'Internet. L'Internet, c'est très, très consommateur d'énergie dans des grands centres de données. Et donc, ces centres de données doivent être équipés, alimentés en énergie. Et donc, c'est les technologies de Schneider Electric qui sont au cœur. Donc, c'est vraiment la croissance sous-jacente de Schneider Electric. C'est vraiment l'électrification et la numérisation du monde d'aujourd'hui.
Merci Christelle Edman d'être venue nous parler de Schneider Electric, présidente de Schneider Electric France.
Il est 13h48.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Mieux manger dans les services pédiatriques des hôpitaux, c'est l'ambition de Repas Toquet et c'est la solution aujourd'hui sur Europe 1. A tout de suite.
écoutez La France bouge, suite et fin. Joindre l'utile à l'agréable, c'est la solution. Et c'est avec vous, Raphaël Duchemin.
La solution aujourd'hui, parce que c'est la journée mondiale du cancer de l'enfant, on va s'intéresser à une initiative parmi d'autres qui s'appelle Repas Toqué, Elisabeth. Repas Toqué, c'est pour les jeunes qui sont hospitalisés.
Oui, c'est une initiative de l'association Princesse Margot. Repas Toqué, c'est un chef qui fait tout, absolument tout, pour améliorer la qualité des repas le midi dans le service adolescents et jeunes adultes de l'hôpital Saint-Louis à Paris. On le sait, plusieurs études l'ont prouvé, hein, les plateaux repas sont parfois responsables de la dénutrition des patients et encore plus quand il s'agit d'enfants et d'adolescents. Je vous donne un exemple qu'un député a donné il y a quelques mois. Si par exemple vous donnez une pomme toute fripée avec un couteau en plastique, faites le test, dans un hôpital, elle sera pas ou peu mangée. Si en revanche vous mettez une pomme de bonne qualité, déjà découpée, elle a plus de chances d'être consommée. La présentation est très importante et l'association Princesse Margot fait justement bouger les lignes avec ce programme Repas Toqué. Ce programme fonctionne depuis septembre au service hématologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris.
Bonjour Maria Latab.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de Princesse Margot, une association en hommage à votre fille Margot, décédée d'un cancer, c'était en 2012. Comment est-ce que vous en êtes arrivée à monter ce projet ?
Alors d'abord, j'ai créé l'association il y a 6 ans pour venir en aide aux enfants, adolescents et leurs familles qui sont donc atteints d'un cancer. Et nous sommes partenaires de 4 hôpitaux parisiens en onco-hématologie pédiatrique. Et au fur et à mesure de nos interventions dans les hôpitaux, au fur et à mesure des contacts que l'on a avec les familles, on s'intéresse à leurs besoins. Et effectivement, en étant présent dans les hôpitaux, on a pu constater malheureusement que ces enfants, ces adolescents, ne mangeaient pas les plateaux qui étaient servis par l'hôpital. Alors, c'est connu, c'est reconnu, tout le monde le sait, c'est un constat, mais malheureusement, pas grand-chose n'est fait jusqu'à présent. Et l'idée, c'est de dire, non, ce n'est pas un constat, il va falloir trouver des solutions, surtout, je dirais, pour ces pathologies. Parce que quand on a un bras cassé, qu'on va 2 jours à l'hôpital, et surtout qu'on peut manger ce que va nous ramener les parents ou la famille ou les amis, sauf que quand on est hospitalisé, par exemple, en hématologie, comme c'est le cas à l'hôpital Saint-Louis, les règles d'hygiène sont très, très strictes, et on n'a pas le droit de ramener à manger de l'extérieur. Donc, on mange son plateau ou on ne mange rien. Et en plus, ce sont des jeunes patients qui sont sous chimiothérapie. Et donc, il faut savoir que la chimiothérapie provoque des nausées, provoque des mucites. Et c'est encore moins évident de manger. Donc, les jeunes ont envie de bien manger et surtout de se faire plaisir. Et malheureusement, ils ne se font pas plaisir avec les plateaux de l'hôpital.
Alors, comment ça se passe à l'hôpital Saint-Louis ? Ce sont des plateaux, les produits sont rapportés sur place et cuisinés sur place ? Parce qu'il y a des mesures très strictes d'hygiène.
Alors déjà, quand j'ai décidé de présenter ce projet à l'hôpital Saint-Louis, il faut le dire, j'ai eu vraiment l'aval de la direction, des cuisines.
Donc un accueil favorable.
Voilà, un accueil très favorable. Et on a travaillé pendant 1 an avec des réunions très régulières de savoir comment on pouvait faire bouger les choses. Parce qu'il faut savoir que l'APHP est soumis à des règles déjà de budget. Donc il faut savoir que les budgets sont très très serrés et qu'il n'était pas question de toucher au budget. Ensuite, il y a une organisation qui fait que le personnel n'est pas forcément sureffectif. Malheureusement, c'est l'inverse. Et donc, il ne fallait pas trop leur donner de travail en plus.
Alors, comment vous avez fait ?
Donc, on avait beaucoup de contraintes. Donc, comment on a fait ? On a travaillé avec ses équipes, on a dit pourquoi c'était, on a voulu savoir pourquoi c'était pas bon et comment améliorer les choses. Donc,
déjà, vous avez fait venir un chef ?
Alors, j'ai fait venir un chef qui est notre ami Grégory Cohen qui a travaillé avec nous. Et donc, on a travaillé sur une modification des menus. On a travaillé sur l'achat d'une vraie vaisselle et plus des barquettes en plastique avec un plateau coloré. Grégory a eu la gentillesse et la patience d'aller dans les cuisines, de former les aides-soignantes aussi au dressage, parce que c'est important, une purée telle qu'elle était servie en vrac dans une, par exemple dans une barquette, c'est pas la même chose que quand Grégory met un emporte-pièce, une jolie purée avec un peu de couleur, une petite cerise dessus. Effectivement, ça donne envie tout de suite.
Oui, ça change tout. Que dit notre coach Luc Le Sénécal ?
On peut être qu'admiratif, hein, bravo, mais est-ce que vous pensez déjà à étendre ce
Bien
projet
sûr.
Au niveau national,
on
comment,
national,
comment on peut vous aider ?
Comment on peut nous aider? Bah, écoutez, rien que le fait d'en parler, de toute manière, de mettre la visibilité, de mettre le focus, comme aujourd'hui, déjà sur les problématiques des cancers des enfants et des adolescents, c'est important. De mettre le focus sur des associations qui travaillent dur pour justement aider ces familles, aider les services. Et puis, effectivement, on souhaite déployer ce programme.
Vous êtes en contact avec d'autres hôpitaux en ce
oui,
moment?
Oui, on espère. On a commencé à travailler avec l'hôpital Robert Debré, donc toujours dans la PHP, et ensuite avec Grégory Cohen, parce qu'il faut savoir que Repas Toqué, le logo est déposé, le nom est déposé, donc c'est un vrai programme et on espère...
avoir d'autres chefs qui travaillent avec vous aussi.
Alors ça, il faudra demander à Grégory, pour l'instant c'est lui qui a la primeur, mais il est tellement passionné par ce projet, il est passionné comme moi, donc il faudra trouver éventuellement d'autres personnes qui voudront bien nous aider, mais effectivement on aimerait le déployer et puis on aimerait surtout...
Un peu partout en France, dans tous les hôpitaux,
bah, évidemment, partout. Maintenant, c'est vrai que chaque hôpital ne travaille pas de la même manière. Donc, on peut pas. Il faut aussi s'adapter.
Dernière question. Les enfants mangent davantage.
Bah bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs l'hôpital est content, même si au début ils avaient un peu peur parce que dès qu'il y a des choses qui changent, les lignes changent. Et puis, finalement, on est tous contents parce que
l'appétit revient.
Alors l'appétit, c'est pas que l'appétit revient, mais c'est-à-dire que les plateaux reviennent vides. Donc par rapport à
très
avant, c'est hyper important. Et je terminerai sur une phrase, le premier jour de l'inauguration, quand j'étais avec Grégory pour servir ce premier repas toqué et qu'il y a un jeune qui nous a dit « bien manger, c'est le début du bonheur », et ben voilà, c'était mission réussie pour nous.
Ça s'appelle Repas Toqué, oui. Et c'est l'association Princesse Margot. Merci d'être venue nous en parler.
Merci
à Luc Le Sénécal qui était notre coach. Nous, on se retrouve lundi. On parlera de la basket connectée.